Bon. Alors, on en est tu peux passer un texte à madame à Sylvia. C'est à la fin, Sylvia, c'est à la fin du volume. Ça va? En forme? Ça va, c'est bon?
Qui est le sujet de Weichwar aussi, Prime, de lui envoyer les livres? C'est qui le sujet? C'est le roi ou c'est le mort?
Là, comment dire? Vaillafked à Mélerd, où tu vois ça?
Dans le début du 4-bet. Il envoie les livres pour du Kepra. Qui c'est il?
Le roi.
Comment ça se fait que c'est le roi?
Comment?
Pourquoi c'est le roi?
Vaya Samela qui va me rendre, vaya Schlag Svarim. Oui, non, c'est vrai, il y a une ambiguïté, tu as raison.
Bien, parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de système d'irresponsabilité qui s'organise en permanence.
C'est vrai, tu as raison.
Il fonctionnerait sur l'irresponsabilité.
C'est-à-dire, il y a une dimension, c'est l'administration.
C'est le speed doctor.
L'administration. Ça, c'est. D'ailleurs, c'est connu hein, que l'Empire perd. Salut, Yériel. C'est connu hein, que l'Empire perse, c'était une administration incroyable.
C'est les Romains aussi.
Comment?
Les Romains aussi, ils avaient une...
Bon, c'est après.
Oui.
Les Romains, c'est bien après. Là...
Mais l'administration de Romain, c'est extraordinaire. C'était une personne qui pouvait gérer des provinces, mais c'était
fou. L'histoire, c'est important. C'est important parce que ça relativise. Nous, on pense aujourd'hui qu'on est moderne, on est ceci. Mais quand tu vois des choses qui existent depuis des millénaires et que tu vois que c'était structuré comme aujourd'hui, ça t'hallucine. Salut. Au revoir. Là, tu hallucines, quoi. C'est vraiment fantastique.
Ça c'est
une pizza. Moi,
ok.
Les
comment?
Les canettes.
Les canettes, c'est offert par la maison. Non, offert par le. Enfin, offert, c'est une manière de dire. Ouais, ça fait partie de
l'intérieur. Un et plus.
Comment?
Non, je vais demander 20 canettes.
Ah, c'est pour moi.
Ok.
Pour les pizzas, c'est les canettes, c'est logique.
Bien. Ok, c'est bon. Alors, regardez, là on est dans un verset absolument central dans la Megillah. Ish Yehudi Haya Beshushan Amira, donc un homme juif, était à Suse, la capitale. Son nom, Mordechai Ben Yair Ben Shvi Ben Kish Yeshim. Asher Ogla Mi Yerushalayim. Imagola, Asher Ogleta, Imiechania, Meder Yehuda, Asher Egla, Nebuchadnezzar, Meder Bavel. Je traduis. Donc, cet homme juif, qui a été exilé de Jérusalem avec l'exil, qui a été exilé avec Yechania, le roi de Judée, qui a exilé Nabucodonosor, le roi de Babel. Trouvez l'erreur. Est-ce qu'il y a un problème dans ce verset?
Il est vieux.
Comment?
Il est vieux.
Il est vieux.
Il est vieux.
C'est-à-dire qu'il a 80 ans et quelques...
Ouais, ça c'est vrai. On est obligé de dire qu'il est pas jeune. Que Mordechai, il est vieux comme le monde. Hein. Très vieux. Hein. Ça, on est obligé de dire ça. Mais je parle une erreur quand même, un problème. L'auteur, Quand j'étais à l'école, on m'a dit variez votre vocabulaire. Et là, l'auteur a mis quatre fois dans la même phrase le verbe exilé.
C'est peut-être le sujet.
Exilé,
c'est quand même beaucoup, non?
On ne lui dit pas qu'il dormait dans un galetas.
Que dis-tu?
On ne lui dit pas qu'il dormait dans un galetas.
Dans un galetas.
Un galetas. C'est un mot français, tu sais.
Galetas.
Un galetas.
En tout cas, tout ça pour dire, Regardez, je reprends, parce que je ne sais pas si vous sentez le problème.
Est-ce que c'est le même mot en hébreu?
C'est le même. Je reprends. Galout, c'est guimel, lamed, et. La racine du mot exil, c'est guimel, lamed, et. Guimel, lamed, et. C'est ça l'exil. Alors, donc cet homme juif, Asher Ogla Meirushalayim, qui a été exilé de Jérusalem, avec l'exil, qui a été exilé avec Echania, le roi de Judée, qui a exilé Nabucodonosor, le roi de Babel. Quatre fois le mot exil. Ce qui est beaucoup. Hein, je pense que là, il y a un consensus mou sur le fait de dire que c'est beaucoup.
Il avait l'exil de feu dans la peau.
Ouais, il avait.
Ça lui faisait mal.
Il était.
La lourdeur. C'est
un gitan.
Je n'ai pas suivi la leçon de la phrase du coup.
C'est la digestion.
Bon, on va en...
Calmement.
Avec le calme qui nous caractérise. Avec la placidité. Donc, Mardoché a été exilé de Jérusalem avec l'exil qui a été exilé avec Yechania, le roi de Judée, qui a exilé Nabucodonosor, le roi de Babel. De Babylone. Donc on voit qu'il a été beaucoup exilé. Alors, ici, on a une question. On a une question par rapport à Mordechai. En vérité, on appelle le rouleau d'Esther. Moi, on ne m'a pas demandé mon avis. Si on m'avait demandé mon avis, je rappelais le rouleau de Mordechai. Parce que le héros, le vrai héros du rouleau d'Esther, moi je dirais, a priori, c'est Mordechai. Mordechai, on va le voir, est un individu très très particulier. Parce que quand Aman, qui va arriver dans quelques versets, Aman va faire des siennes, tout le monde se prosterne à Aman, tous. Non, sauf un petit village, sauf irréductible, ouais, Mordechai. Un seul se prosterne pas à Aman, c'est Mordechai. Et tellement que nous allons voir que après, en vérité, Aman, il va être tellement secoué par le fait que Mordechai, le Judéen, ne se prosterne pas à lui, le verset va dire que Mordechai, pour lui, c'est bas de s'attaquer à Mordechai seul, parce qu'on lui a dit qu'il est hébreu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est de là que va venir le décret d'extermination. Donc les gens vont dire à Mordechai, ben, c'est à cause de toi qu'il y a des problèmes. C'est à cause de toi qu'il y a des problèmes. Et Mordechai, il va continuer à ne pas se prosterner. Il va dire, mais c'est toi le danger du peuple juif. C'est à cause des gens comme ça que le peuple juif vient de l'antisémitisme. Et il dit, il ne va encore pas se prosterner. D'où ça lui vient ça? Il est pété, il est fou, il est complètement timbré ce Mordechai. Le verset nous dit, il a été exilé de Jérusalem. Alors, moi je vous propose l'interprétation suivante. C'est une proposition. Qu'il a vécu à Jérusalem à l'époque du premier temple. Lui, il a vu qu'est-ce que c'était le premier temple. Il a vu qu'est-ce que c'était la présence divine à l'intérieur du temple. Qu'est-ce que c'était vivre juif. Qu'est-ce que c'est vivre juif. Et les juifs, la génération d'après, puisque 70 ans sont passés, ils sont à Babylone, ils sont des bons babyloniens, ils adorent la culture babylonienne, les stars de rock babyloniens, ils sont complètement dans la société babylonienne. Il y a Assuérus leur dit, voilà, il y a un super festin, il y a même des trucs cachers pour les juifs, c'est pas de problème, on va là-bas, on va trinquer avec les babyloniens, nous sommes pour une société
culturelle,
ouverte. Ouais, la connaissance des autres, c'est formidable. Oh là là, c'est une société absolument extraordinaire, moderne, ouverte, pluriculturelle. C'est fantastique. Mais Mordechai, lui, il a vécu qu'est-ce que c'est être juif. Il l'a vécu. Quand il voit ça, il est complètement pété. Il pleure. Mais pas seulement ça, mais il est... Dans l'exil, il est quatre fois en exil. Il est dans plus profond de lui, il est dans l'exil. Je vous donne un exemple. Je pense que les gens qui ont vécu dans un milieu juif véritable, parce qu'il y a toujours, bien que nous soyons en exil, vous savez, on dit, telle ville, c'est la petite Jérusalem de machin, bidule. Je vous donne un exemple que moi je vis très simplement. Moi j'ai été 12 ans à Strasbourg. Il y a des années, j'étais 12 ans. Moi j'ai vécu, qu'est-ce que c'est par exemple Pourim à Strasbourg. Mais c'est du délire. L'année dernière, je ne voulais pas passer Pourim à Paris. Je ne voulais pas. Non. Non. Je peux plus passer Pourim à Paris. C'est-à-dire les gens là qui à 16h30 appellent leurs copains en buvant leur cannelle, je crève. Je suis allé passer Pourim l'année dernière, il y a un an j'étais à Bnei Brak où il y a mon fils Moshe. Mais toute la ville est dans un délire, toute la ville. C'est-à-dire tu as une ville de 200 000 personnes dans un délire total. C'est, alors moi tu vis, qu'est-ce que c'est, machin. T'arrives ici à Paris, t'es un peu comme Mordechai, t'es exilé. Mais c'est pas seulement ça, mais je le dis souvent au risque de me répéter, mais je pense que c'est le sujet. Que quand tu as vécu dans un milieu juif vraiment, tu sens qu'est-ce que c'est la, monsieur comprendra, qu'est-ce que c'est la Heimischkeit, ça, je traduis pas. Quelqu'un il comprend pas, qui se suicide. Bon, je vais être bon. Heimischkeit, c'est en yiddish, ça veut dire l'ambiance familiale, maison, c'est... Tu vois, par exemple, moi, j'ai vécu 12 ans à Strasbourg. Alors, il y avait une fête. Il y avait une Brit Mila. Et ben, c'est les dames, elles préparent le repas. Ouais, de la Brit Mila. Ici, tu viens à Paris, mais tu te flingues. Ils commandent chez le traiteur. Mais t'es mort. Et alors t'as les viennoiseries à la con, je veux dire, c'est... Mais tu crèves, je veux dire, c'est sympa être juif, c'est ça être juif. C'est quoi? Quelle est la différence? C'est quoi la différence? C'est que tu payes, tu casques, mais tu vis rien, je veux dire, c'est tu payes quatre fois plus cher pour un truc et quatre fois plus nul, je veux dire, c'est du délire, c'est pas ça être juif. Alors quelqu'un, il a vécu ça, vous me direz... En vérité, la vie juive, elle passe par des choses simples. Elle passe. Il y a un monsieur qui est décédé il y a quelques années, monsieur Lederberger, qui. Tu as connu monsieur Manes Lederberger.
C'est un monsieur qui a vécu, il est né à Cracovie, donc il est décédé il y a, je sais pas, 2-3 ans, il était âgé. Alors, moi je lui demandais, monsieur Lederberger, comment c'était à Cracovie? Bon, c'était un monsieur très dur, parce qu'il a vécu des choses très dures. C'est un monsieur très dur. Il disait, Cracovie, Chesed.
Chesed.
Chesed, c'est générosité. Générosité. C'est les gens, l'entraide. C'est l'entraide. Point. Il n'avait pas envie d'en raconter plus. L'entraide. Mais ça, tu vois, c'est je sais pas, moi j'ai une fille qui habite à Beth Vegan. Même c'est moi, je suis pas du tout idolâtre des milieux de Torah en Israël. Mais il y a une dame, elle accouche, tout le quartier lui amène à manger pendant un mois. Je veux dire, pendant un mois, elle fait pas à manger. C'est beau, mais c'est ça être juif. Je veux dire, c'est ça être juif, c'est rien. Je veux dire, tu viens ici à Paris, tu peux crever, t'es dans ton coin, tu crèves. T'as des problèmes, personne va dire comment tu vas pas, machin, tu crèves. Mais alors, ah non, tu crèves pas, c'est moderne. Tu crèves pas, c'est bien, je veux dire, au contraire. On est sorti de notre trou, je veux dire, on peut arriver à des situations, des bonnes situations. Tu veux faire quelque chose, tu peux arriver. Même, Paris devient un peu trop provincial, maintenant je conseille d'aller à Londres, c'est encore mieux. Ouais, t'es encore plus dans le fric, quoi, t'es plus dans le business, the city, c'est excellent. Mais Mordechai, c'était ça à l'époque. Ils étaient à Babylone, c'était la société... Jérusalem, c'était un village. C'était le shtetl. Ils étaient à Babylone. C'est extraordinaire, Babylone. C'est moderne et machin, les jardins suspendus, c'est Miramis, machin. Ah, c'est extraordinaire. La mode. Mais en Israël, on était habillés comme des cons. Maintenant, on est habillés design. Moi, j'étais, il y a un mois et demi, j'ai fait un cours chez quelqu'un dans le 16e. Tout l'appart... hyper design, mais tout design, c'est un thune, mais là, le mec, design un max, tout design, tellement design, je suis allé aux toilettes, et, c'est intéressant, et, il y avait un robinet, j'ai pas réussi à le faire marcher tellement c'était design, c'est même pas, j'ai pas réussi, j'ai mis les mains, j'ai bâché, mais c'est vrai, j'aurais pas pu inventer un truc pareil. J'ai aidé le mec. Alors, comme j'ai pas pu laver les paluches dans les toilettes, je suis allé dans la cuisine. La cuisine, c'était grand pareil, comme ici. Vous voyez, la cuisine. Comme c'est des gens religieux, ça veut dire la moitié Bassari, la moitié Khalawi, machin, les appareils électroménagers, les plus trucs. Mais bon, Hachem, qu'on est sorti du shtetl. On est sorti du shtetl. Mais est-ce qu'on gagne à ça? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on est design. Ouais, c'est super, c'est-à-dire même les trucs les plus imbéciles, si t'avais les paluches, tu peux même pas le faire. C'est pas un sketch de gars des malais, c'est du vécu. J'étais mort. Mais alors Mordechai, il a vécu à Jérusalem. Il a vécu Jérusalem à l'époque du premier temple. Il a vécu, il arrive à Babylone, il voit les juifs, ils ont au festin d'Assuérus, etc. C'était avec le repas cachère, un chef étoilé. Étoilé, un chef toqué. Un chef, trois toques. Et glatte. Oh là là, c'est extraordinaire. Mais il voit ça, il crève, il vomit. Il crève. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez à ce truc-là? Mais c'est horrible. Quoi horrible? Il est complètement fou, ce Mordechai. Complètement à côté de ses pompes. C'est un vieux pépé. Il n'a rien compris. Et il pleure. Il pleure trois fois. Il pleure quatre fois. Moi, je n'ai pas vu d'explication, mais je voudrais dire que ça représente les quatre lettres du tétragramme. C'est-à-dire que ça touche jusque à plus prof, jusqu'au plus profond de son intimité, jusqu'au plus profond de son être. De son être, il est complètement en souffrance, en souffrance de ce que tout le monde considère que c'est bien, tout le monde considère que c'est formidable, tout le monde considère que c'est dans le sens de l'histoire, tout le monde considère que c'est un plus, que c'est la modernité, etc. Et lui, il dit, mais le peuple juif est complètement à la masse, complètement à la masse. Mais vous discutez, il y a avant, nous les juifs ici à Paris, on habitait Belleville. Oui, Belleville. Belleville, c'est l'endroit, ça ne beau de beau que le nom. Ouais. Moi j'ai habité 3 ans à Belleville, ouais, j'adorais. Mais mes gosses, je veux dire, ils supportaient pas. Moi j'aimais bien Belleville, c'est pourri. Ça me rappelle Jérusalem. Non mais vraiment, c'est le même charme que Jérusalem. Vous allez dans les petites rues de Jérusalem, les gens ils disent que c'est beau. C'est plutôt chaotique, quoi. Il y a pas. C'est beau. Bon, il faut dire que c'est beau, sinon tu vas dire que t'es antisémite. C'est beau, Jérusalem. Non mais c'est Belleville, je veux dire. C'est, tu vois les quartiers près de Machane Yehuda, machin. Tu vas dire c'est beau, oui. T'as intérêt à dire que c'est beau, mais c'est plutôt Belleville, quoi. C'est un peu chaotique, quoi. Mais bon, t'as des gens qui vivent, c'est comme on dit en yiddish, c'est Amish, voilà. Tu sens qu'il y a des gens, il y a du vécu. Mais bon, la deuxième génération, ouais, maintenant ils sont dans les beaux quartiers. On a réussi, on est sorti de Belleville, quoi. On est bien, maintenant on est des gens bien. On dit, mais c'est le remensch, des gens bien. Ouais. Maintenant on est devenu des gens bien. Et on parle français sans accent maintenant. Et on est habillé, mais pas des habits, on est habillé super, avec des belles fringues et des machins, bidules. On fait des études, super classe. Ok, et alors? Alors quoi? Vous snore, quoi? On va où? On va où? Mais qu'est-ce qu'il pose comme question? C'est mieux, non? Moi, je me souviens, ma grand-mère maternelle, elle était née dans un petit shtetl. Et je me souviens des conversations. De rares fois, nous, les juifs polonais, c'est presque un tabou, on discute, on raconte pas. Nos grands-parents ne racontaient pas comment c'était en Pologne. Ils ont zappé. Mais je me souviens, une fois, ma grand-mère, elle racontait. Alors, il y avait ma sœur qui lui demandait, mais on disait pas mamie à l'époque, on disait mémé. Mais mémé, c'est mieux ici, c'est mieux. Temps d'arrêt, un blanc. C'est mieux, c'est pas mieux. C'est mieux, je veux dire. Moi, j'ai parlé avec mes grands-parents pour essayer de comprendre. Mon grand-père maternel me disait que eux, dans leur shtetl, ils n'avaient pas de chaussures. Chaussures, d'abord, ils n'avaient pas. Dans un pays où il y a de la neige 4 mois par an, il n'y a pas de chaussures, imaginez à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de trottoir. C'est-à-dire, quand il pleut, tout ça, c'est la boue. Pas d'électricité, pas d'égout. Ouais. Mon père, qui est né en Pologne, il m'a dit qu'en été, il retournait chez ses grands-parents, passait les vacances. Il dit, aller aux toilettes, tu préférais mourir. Il n'y avait pas les toilettes comme on... Alors, j'ai parlé avec mes grands-parents. Je leur ai dit, mais... Parce que les juifs polonais, quand ils sont venus en France, en 5 minutes, ils ont tout lâché. Moi, je pensais aussi que les juifs marocains, ce n'était pas comme ça. Qu'ils avaient beaucoup, beaucoup plus de racines fortes. Mais aussi les juifs marocains, en 20 ans, 30 ans, c'est pareil. Mais j'ai parlé avec mon grand-père maternel, qui venait d'un petit village. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait? Il m'a dit, quand tu es dans une maison où tu as l'eau chaude au robinet et tu as les toilettes à l'étage, rien ne peut être comparable. Rien ne peut être comparable. On est arrivé, les temps messianiques sont arrivés. mais à part ça, qu'est-ce qui se véhicule? Ça, c'est des grosses questions, énormes questions. Mordechai, il était à Babylone, il était à Suse, la capitale. Suse, c'était Brasilia, c'était la nouvelle capitale. C'était, il a voulu construire hyper moderne, nouvelle capitale. Et tout le monde, tous les juifs sont dans le plan. Tout le monde joue là-dedans. C'est bien. Et lui, il pleure une fois, il pleure deux fois, il pleure trois fois, il part quatre fois. Ça, c'est Mordechai. Terrible. Ce verset, il est terrible. C'est cet exil fait que, pour lui, il savait qu'est-ce que c'est être juif. Il savait. Maintenant, qu'est-ce que c'est être juif? Bon, pour Kachem, on a Actuji, on a Maudia France. Bon, c'est bien aussi, je ne sais pas. Mais le vécu juif, complètement disparu de la circulation. Et ça, c'est... Lui, il meurt de ça. Il meurt, il pleure. Il pleure. Alors, continue. Comment?
Est-ce qu'il était à ce festin?
Il est... Alors, le Midrash dit qu'il allait à la porte du palais, il disait aux Juifs, ne rentrez pas, n'allez pas. C'est pas pour vous. Et les gens se moquaient de lui. Et justement, c'était ça. Que là, il savait que le peuple juif était dans un problème énorme. Et que c'est tout le destin du peuple juif qui est en jeu. Le fait qu'ils ont né nous, mais Seudat Achashverosh, ils ont profité du festin d'Assuérus. Ils savaient que là, c'était un gros problème et qu'il fallait y aller fort pour reprendre, pour régénérer, pour ravivifier le peuple juif.
Surtout qu'en allant à ce festin, surtout c'était, les juifs se mettaient à profaner tous les objets du temple. C'est bien plus que aller à un festin.
Oui, mais Daniel, on peut dire ça de manière métaphorique. On peut dire que ce festin, c'était la profanation des objets du temple. C'est que c'est maintenant le temple, c'est quoi? C'est la gloire de l'homme, c'est la gloire de ce qu'on a dit pendant toute cette matinée. La gloire du pouvoir de l'homme, du pouvoir
de ce qui est maintenant.
Voilà, de ce qui est là, voilà. Ici et maintenant. Alors, continuons. Donc vous voyez que ce texte, où il n'y a pas le nom de Dieu, en vérité, touche les problèmes de tout à chacun. Ça touche vraiment... les problèmes auxquels on est confronté dans la vie. Vayoi omen et adassa i Esther badodo ki en la ava em vanara yefatoar vetovat mare ubemot avia veima le kacha Mordechai lo lebat. Il était le tuteur de Adassa qui est Esther. Bat-Dodo, la fille de son oncle. Donc je l'ai relevé au cours de mardi soir dernier. En vérité, c'était sa cousine, c'est écrit. Hein. Car, pourquoi il était le tuteur? Parce qu'elle n'a pas de père et de mère. Et la jeune fille, Yefat Toar Vetovat Maré, Yefat Toar, de bel aspect et bel avoir. Toar, c'est-à-dire c'est la... Elle a un visage parfait. Mais pas seulement elle a un visage parfait, elle a aussi un rayonnement de ce visage. Pas seulement d'avoir un visage parfait, mais un rayonnement du visage. Alors encore pour les biblistes, où voit-on cette expression « Yefat Toar Vetovat Maré » ?
Non, c'est Sarah.
On voit ça à propos de Sarah ? C'est... Rachel. À propos de Rachel. À propos de Rachel. Et c'est très important parce qu'elle descend de Rachel. Puisque c'est la cousine de Mordechai. On vient de dire que Mordechai est la tribu de Binyamin. Binyamin, enfant de Rachel. Donc, et là, il y a une réminiscence de la beauté extraordinaire de Rachel. Et nous voyons une différence entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Il y a dans la Torah et dans les prophètes, on voit une différence structurelle entre les enfants de Rachel, Binyamin et Yosef, et Léa. Rachel, on voit tout de suite, elle est très très belle. C'est ce qu'on voit ici. On voit aussi, avec Rachel, à deux enfants, Yosef et Binyamin. Ok ? Yosef et Binyamin. Yosef, aussi, on voit, il est super beau. Qu'est-ce que ça veut dire super beau ? Ça veut dire, c'est quoi ? On se pose toujours cette question. Pourquoi la Torah nous met... Vous avez dit Sarah aussi. Première chose, Sarah, super belle. On s'en fout, je veux dire. Comme dirait Boris Vian, on tuera tous les affreux. Non, c'est vrai, déjà, ils sont beaux, il y en a qui se ravagent. Mais on s'en fout, je veux dire. Qu'est-ce que c'est la Torah ? Ouais, très belle, machin. C'est quoi ? Et on voit, manifestement, que... Rachel, elle est très belle, Yosef, très beau. Bon, Binyamin, c'est pas dit, mais on voit dans sa descendante Esther qu'on nous dit la même expression qu'au sujet de Rachel. Ça nous avance quoi ? C'est quoi ?
Ça fait une source de gros problèmes, peut-être de problématiques, de malheur, de jalousie, de scission au sein même d'Israël.
Yosef a sauvé son peuple.
Joseph était beau et était rêveur et c'était une grosse problématique.
Mais on dirait que là, regardez, le... on dirait que c'est présenté comme une qualité. Je reprends, je traduis le verset. Alors, je termine. Dans la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'a prise comme fille. Alors, il était tuteur de Hadassa, qui est Esther. Alors j'avais posé la question mardi soir dernier, mais bon, je reprends. Elle s'appelle Hadassa ou elle s'appelle Esther ? Il faut choisir, là, c'est quoi son nom ? Qu'est-ce que c'est cet embrouille ? Hadassa, Esther, c'est Hadassa, c'est Esther, c'est quoi ça ? Alors, comment ? Elle avait deux noms. Elle s'appelle, comme nous, je ne sais pas, on a alors, il y en a qui disent... qu'elle a un nom goy et un nom juif. Ce qui est intéressant, c'est comme nous.
Elle s'appelle Hadas pour Aman et Esther pour Mardochée.
Toi, tu dis que Hadassa, c'est...
C'est pour Aman.
Pourquoi ?
Parce que la mire, c'est pas très bon. C'est la même impression, je crois. J'en suis pas certain.
Mais... Ouais. Ah, toi, c'est une explication que tu as vue ou que tu proposes ? Que tu innoves ?
Je ne sais pas.
Tu lances. Alors, il y en a qui disent que Esther, c'est un nom babylonien. Et qu'Adassa, c'est son nom hébreu. Ouais, elle s'appelle Vanessa Sarah. Voilà. Comme tout le monde, quoi. Ou, je sais pas.
Ouais. Shirley.
Non, Shirley, c'est encore... c'est encore juif, maintenant. C'est devenu juif. Mais...
Qui s'appelait Ishtar, qui était le déesse de la lune.
Absolument. C'est ça. Il y en a qui donnent cette explication. Donc, il montre un aspect... Mordechai s'appelle que Mordechai. Mais elle a un double aspect. Mais il y a des discussions dans la Gemara, dans le traité Megillah, sur ce sujet. Le Maharal développe beaucoup que son nom, c'est Esther, et Hadassa, c'est un qualificatif, c'est un surnom. Pourquoi ? Parce que les tzadikim sont comparés à la myrrhe, la myrte. C'est pas la myrrhe, c'est la myrte.
Ouais.
La myrte. Et qu'on voit... qu'il y a un passouk dans Shir HaShirim qui compare les justes à la myrte. Pourquoi ? Parce que la myrte, comme on voit qu'on utilise à Sukkot, c'est, il y a une tige avec les feuilles dessus qui recouvrent la tige. De la même manière, les tzadikim cachent ce qu'ils sont. Encore cette thématique que les tzadikim ne se montrent pas, ils sont pudiques. Or, on voit qu'une qualité première de Esther, justement, on va voir dans la suite, elle ne dit pas d'où elle vient, elle ne dit pas qui elle est. Elle est secrète.
Esther aussi, ça veut dire cachée.
Cachée. Donc la myrte, elle est réservée. Et malgré cette réserve, il y a une odeur qui émane, très belle odeur qui émane d'elle. Ce qui représente les tzadikim. Le contraire, justement, de Assuérus qui se montre. Et le Maharal développe sur la base du Midrash que ça, c'est la qualité de Rachel. On voit Rachel, on dit qu'elle avait Rachel, on dit qu'elle avait une grande pudeur. Où est-ce qu'on voit que Rachel avait une pudeur?
Elle laisse sa place à sa sœur.
Comment?
Elle laisse sa place à sa sœur.
Razak, très bien. C'est absolument ça. Et c'est extraordinaire. En vérité, elle allait, dans quelques minutes, être la femme de Jacob. Elle voit que sa sœur, elle allait avoir une honte terrible. Elle s'est mise de côté pour sa sœur. Et ça, c'est, elle se met de côté. Voilà. Ça, c'est la dimension de Rachel. En vérité, c'est... Alors, et le Midrash dit, que rapporte le Maharal dans son livre Or Hadash, que Ésaü, dont la quintessence d'Ésaü, c'est Amalek, les Amalécites, Amalek est un petit-fils d'Ésaü, Ésaü, on dit, « Ayadai akol kol Yaakov, vayadaim yed Esav. » La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Ésaü. L'intériorité, c'est Jacob, la voix qui vient de l'intérieur. Les mains, c'est l'extériorité, c'est le contact avec le monde. Et c'est les mains, c'est la dimension la plus extérieure de notre personne. Les mains, c'est Jacob. Et les mains de Jacob tombent quand il y a la voix les mains d'Ésaü tombent quand il y a la voix de Jacob, ce qu'on dit. Et la dimension de l'intériorité même, c'est Esther. C'est ça ce qu'on dit, Hadassa, c'est Hadassa, c'est son surnom, on l'appelle Hadassa, qui est Esther. Qui est Esther. Donc, cette beauté, souvent, dans nos traditions, et d'ailleurs la Gemara dans le traité Megillah dit que la beauté est l'expression de cette intériorité. Pour nous, la beauté, c'est pas une bêtise. C'est pas une bêtise. Bien qu'on dise le vendredi soir, on dit dans Eshet Ra'il, Sheker Arken Vevel Ayofi. Ouais, c'est mensonge, la grâce. Et vanité, la beauté, la femme qui craint Dieu, et Titalal. Je pense que c'est pour ne pas vexer, si quelqu'un d'aventure, il a une épouse qui n'est pas top. Donc peut-être il dit ça pour... je ne sais pas. mais en vérité, souvent, dans notre tradition, la beauté est, oui, l'expression d'une grandeur. Et sur ce sujet, la Gemara, dans le traité Megillah, dit qu'il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, quatre femmes extraordinairement belles. Alors, je vous le dis parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas tellement, mais le verset le met en avant. Verset le met en avant. Il y a eu quatre femmes exceptionnellement belles. Pas belles, exceptionnellement belles. Quelles sont ces quatre femmes? Il y a Sarah, sur lequel le verset dit. Sarah.
Tamar.
Comment?
Tamar.
Les sages ne disent pas dans cette liste. Il y a...
Rachel.
Abigail. Abigail. Rahab, Rahab et Esther.
Oui, Rahab. La femme de Josué.
Alors, Rahab, Rahab, c'était la prostituée de Jéricho. La prostituée de Jéricho qui est devenue juive. Et pas seulement elle est devenue juive, mais elle est devenue la femme de Josué. Voilà. Et les sages disent que le prophète Jérémie descend de Rahab et de Josué. Abigail, c'est une femme de David. Et Esther. Le point commun, Sarah est prophétesse. Sarah prophétesse. Abigail, c'est l'exemple même de la prophétesse. On voit, c'est là-bas dans le passage, dans la Gemara. Abigail est prophétesse. Esther, on va voir qu'elle est prophétesse. Rahab, en vérité, elle sauve le prophète, elle sauve Josué, etc.
Abigail, elle a eu des petits problèmes.
Comment ?
Abigail, elle a eu des problèmes aussi.
Qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème, non ?
Parce qu'elle elle a engueulé David Amalek, donc elle n'a plus d'enfants, etc.
Non, ça c'est Michal. Michal. Non, non. Donc en vérité, sur les trois femmes, il y en a trois qui sont des prophétesses. Rahab, qu'est-ce que fait Rahab dans cette dimension ? Bon, il faudrait analyser. Mais en tout cas, on voit, et ça le Maharal le développe souvent, que la beauté est l'expression de la vie intérieure. C'est l'expression concrète de la vie intérieure. La beauté n'est pas considérée quelque chose comme nous de secondaire. C'est quelque chose, c'est l'expression d'un éclat de la neshama, de l'intériorité. Et c'est très intéressant. La Gemara dit qu'il y avait quatre femmes exceptionnellement belles. Et la Gemara dit non, enlève Esther et mets Vashti. Je pense que l'explication c'est comme ça, c'est que nous on n'a plus l'idée qu'est-ce que c'est une femme belle. Si nous on parle en français une femme qui est belle, alors tu vas voir, ah oui, la star d'Hollywood. Mm-hmm. Non, mais ça c'est, Vashti, c'est là, on l'a vu tout à l'heure. C'est, en réalité, elle n'était pas contre d'aller faire la danse du ventre. C'est un autre problème, c'était un problème de pouvoir, tu ne me demandes pas de le faire, va te faire voir. Mais dans le fond, ça ne la dérangeait pas. Alors c'est vrai, l'idée qu'on a maintenant de la beauté, c'est une dimension dévoyée. Mais on n'a plus l'idée de qu'est-ce que c'est la beauté structurelle. Et Esther, en vérité, elle va relancer cette notion. Et on va voir que chaque personne qui voit Esther est subjuguée par elle. Esther, on est subjugué. Ça, c'est la différence entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Léa, on ne se rend pas tellement compte des qualités de la personne. Yehuda, il paraît un peu bizarre, on le voit, Yehuda et Tamar, il fait des choses un peu bizarres. Les autres frères, Réhouven aussi, il est un peu bizarre. Par contre, Yosef, c'est le tzadik. Tu vois, tout de suite, il sort du lot. Voilà. Comme Rachel, tu as Rachel et Léa, tout de suite, tu vois, Rachel, oh, une femme exceptionnelle. Tu n'as même pas discuté avec elle, t'as même pas, elle n'a rien dit, tu vois tout de suite qu'elle est exceptionnelle. Léa... Et là, dans son coin, les gens, ils oublient de lui dire bonjour, toi. Il y a Léa et Rachel. Depuis qu'elles sont gosses, t'as Rachel et Léa, tout le monde dit « Ah Rachel, comment tu vas, bonjour ?» Léa, elle est là. Ouais. Bon, on s'est pas rendu compte que c'est une femme exceptionnelle. Bon, elle paye pas de mine, quoi. Et il y a ces deux dimensions. Il y a une dimension, tout de suite, on se rend compte de quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est... Et Esther, c'est ça son lot. Tout de suite, elle est exceptionnelle. On s'en rend compte. C'est immédiat. On s'en rend compte tout de suite. Alors, le verset dit Obemot avia veima le kara Mordechai lo lebat. À la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'a prise comme fille. Alors, regardez Rashi. Sur le verset Zayin du deuxième chapitre. L'olébat, rabotez-nous pirchou la baït laïcha. Que quand son père et sa mère sont morts, il a prise comme fille, c'est-à-dire n'est pas comme fille, mais prendre, c'est un langage de mariage, en vérité, il l'a épousée. Que la tradition talmudique dit que Esther était la femme de Mordechai. Ce qui va, dans la suite, poser d'énormes problèmes, ça va changer complètement l'optique de la suite. Comme on va le voir. Vayehi bishama dvar hameler vedato, ubikabetz narot rabot et shushan abira eliad egay, vatilakar ester elbet hameler eliad egay shomer anashim. Quand l'édit du roi s'est fait entendre ainsi que sa loi, quand de nombreuses jeunes filles ont été prises à Suse, la capitale, sous la responsabilité de Hegai, Esther a été prise dans la maison du roi, sous la responsabilité de Hegai, le gardien des femmes. Alors les commentateurs demandent si elle était la femme de Mordechai et que le roi avait demandé, enfin les pages avaient dit qu'on prend des filles vierges. Bon là, manifestement, elle ne l'était pas. Alors comment ça se fait qu'elle a été prise? Ça aussi, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Elle n'aurait pas dû être prise. Et justement, va-t-il à quart qu'elle a été prise de force? C'était une anomalie qu'elle soit prise. Ce n'était pas normal. Verset 7. Vatita vanara benav. Vatissa resel le fanav. La jeune fille a plu aux yeux du gardien des femmes. Voilà, tout de suite, il a vu qu'elle est extraordinaire. C'est impressionnant. Il y a des personnes qui ont le ticket, comme on dit en français. Et là, c'est pas juste, non ? Non, c'est pas juste. Il y a des gens, ça marche pour eux tout de suite. Il y en a, ils rament, mais il y en a, non. C'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Arnaud? Non,
mais est-ce qu'il n'y a pas une différence? Il était marié, mais comme il y avait dans les mariages dans le temps un temps qui s'écoulait entre le...
Kilushin et Nisuin, oui.
Il aurait été... Il aurait pas consommé.
Oui, mais on va voir dans la suite que si. Que si, on va voir dans la suite. Hein, on va voir. Alors, comment dire? Alors... Pourquoi Racine a écrit la pièce Esther?
Parce qu'il
Pourquoi
a été payé pour.
Comment?
Parce qu'il a été payé pour.
Alors, le...
Non, je ne sais pas.
Non, vous ne savez pas? Vous voulez savoir, je sens. Alors, si je ne m'abuse, Racine était janséniste. Alors, je sens aussi que vous vous en foutez, quoi, on s'en fout. Alors, la thèse, la pièce d'Esther, enfin, Esther, la lecture des jansénistes. Jansénisme, je ne suis pas du tout spécialiste, alors là, loin de là. Mais, à l'époque de Louis XIV, il y avait... La réforme, la contre-réforme, la sur-réforme, je ne sais pas quoi. Il y avait des gros problèmes en Europe entre les protestants et les papistes et les catholiques. Des énormes problèmes. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout qu'est-ce que c'est. Mais c'était des énormes problèmes. Il y avait des guerres. Il y avait des énormes guerres là-dessus.
Des massacres.
Des massacres et tout ce que vous voulez. Ou que vous ne voulez pas. C'était terrible. Il y a une différence fondamentale. Je ne suis pas du tout spécialiste. Mais entre la théologie catholique et la théologie protestante. En particulier sur la liberté humaine. Ce qu'on appelle en français le libre arbitre. J'ai jamais aimé le libre arbitre parce que comme j'aime pas le foot, ça me met toujours mal à l'aise. Quand on parle, les gens ils parlent de libre arbitre, ça me met mal à l'aise. Mais...
C'est pour ça qu'ils disent la grâce. C'est quand l'arbitre a beaucoup couru qu'il en a moins.
Alors voilà. C'est le thème de la grâce. Le thème de la grâce, c'est le contraire de la liberté humaine. C'est-à-dire que l'homme n'est pas libre. Mais il y a des gens qui ont la grâce. C'est quoi la grâce? C'est-à-dire, il y a des gens, c'est des justes. C'est comme ça.
C'est donné.
C'est donné. C'est la grâce divine. Et ça, c'est une thèse à l'époque sur la base protestante. Et on sait que il y a eu l'édit de Nantes, où les protestants ont le droit de culte dans le royaume de France. Mais Louis XIV avait été en grand problème avec ça. C'était pas seulement des problèmes de croyance. Tous les problèmes de croyance, c'est des problèmes aussi politiques. Ça va de fric, de politique, ça va toujours ensemble. Et il y a eu un mouvement catholique qui est janséniste. Avec Blaise Pascal et Racine. Et Racine a écrit la pièce Esther à cause de ce verset-là que on l'a à la bonne. C'est, elle est juste par naissance. C'est la grâce. C'est le thème de la grâce. Alors après, il a interdit le jansénisme, le brave Louis XIV, et persécuté et coupé la tête. Ouais. Et avec la révocation de l'édit de Nantes, machin, bidule. Mais il y a une lecture du rouleau d'Esther qui on va voir. C'est est-ce que l'homme est libre ou non ? Premier thème ce matin, Dieu est mort. Maintenant cet après-midi, musique, l'homme est-il libre ?
Vous avez 4 heures.
Sortez une feuille.
Sortez une demi-feuille.
4 questions, chaque question 5 points. Ok. Alors, mais ça c'est énorme. C'est colossal. Avec un grand K. Colossal ! Artung, c'est colossal. Regardez le verset. Vatita vanara benav. C'est un problème énorme. Problème énorme. Vatita vanara. Elle a plu. Alors là, que la lecture, si vous voulez, première du verset, lecture première du verset, c'est que il y a des gens qui ont.
Ils ont la grâce.
Dans la grâce. Mais tout de suite, tu vois. Vatita vanara benaf. Vatis, elle a plu la jeune fille à ses yeux. Vatissa chesel le fanaf. Elle a porté grâce, générosité. Chesed, ça veut dire que tu es porté. Lui, c'était un gardien. C'est un maton. Ouais. Et il voyait Esther. Qu'est-ce qu'il y a, Esther ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ah. Tout de suite. C'est tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Esther ? Mais c'était pas un rigolo, hein. C'était le mec, un gardien du harem. Gardien du harem. Le mec, il avait une mitraillette. Eh ben non, Esther. Chesed, ça veut dire, c'est malgré la loi, aller plus loin que la loi. Elle a porté... générosité de Vaïvaël est amoureux. Il l'a chouchouté. Il a précipité ses moyens cosmétiques. Vetmanotea la tête là, ainsi que ses repas. Parce qu'elle a dit je mange végétarien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais. Elle dit mais il n'y a pas de problème. Non, en général, parce qu'il faut qu'elle soit bien nourrie pour aller voir le roi. Elle dit je mange pas de viande. Il dit qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Ça veut dire il faut être bien nourri. Et le roi il va voir que t'es anémique, anorexique, machin. Ça va pas. Il faut que tu sois bien nourri. Elle dit non, moi je mange végétarien. Il n'y a pas de problème, Esther. Voilà. Et même si vous pouvez aller m'acheter ça hyper caché. Voilà. Vishanea. Voilà. Donc Vedmanotea. La tête là. Vetcheva Neharot et Royon, la tête là, elle a demandé 7 jeunes filles de la maison du roi. Veishanea, il a changé son statut à elle, ainsi que 7 jeunes filles, les Tov Betameler. Pourquoi elle avait 7 jeunes filles ? Parce qu'elle était dans le palais royal. Elle ne savait pas quand est-ce que c'était Shabbat. Donc elle avait la fille de service, enfin, comment on dit, le pendant féminin du page.
Elles
font
du ménage.
Comment ?
Non.
Non, mais mieux, c'est standard. Demoiselle d'honneur, voilà. La demoiselle d'honneur, elle avait 7 demoiselles d'honneur. Alors, le dimanche, c'était une demoiselle d'honneur, machin. Elle savait quand est-ce que c'était le Shabbat, parce que ça tournait. Voilà. Comme ça, les Chachamim disent. Les Tov Betameler, elle avait le meilleur statut de la maison du roi. Du Bet Anashim, du harem.
Encore un complot juif.
Comment ?
Encore un complot juif.
Voilà. Loï Guida Esther et Tama Vet Moladota. Excusez-moi, je demande une petite seconde. Je me prends...